France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Fanny Richer. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre. On a parlé hier du paysage politique ivoirien qui s'est considérablement resserré autour du président sortant Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la relation de la Côte d'Ivoire avec son voisin du nord-est, le Burkina Faso. Une relation aussi étroite du point de vue des peuples que conflictuelle pour leurs dirigeants.
Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso?
Même plus que ça. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Le pouvoir flatte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir.
Nous avons beaucoup d'respect pour le chef de l'État du Burkina. Nous sommes régulièrement accusés par ce chef d'État. Nous attendons jusqu'à ce jour les preuves de ces accusations. Notre pays accueille plus de 80 000 réfugiés qui ont fui le Burkina en raison des violences qui existent, notamment donc dans les zones qui sont sous influence des terroristes.
On remercie Dieu. Dès notre arrivée ici, on a été bien accueillis. On n'a pas eu de problème. On nous donne à manger et à boire. On se sent bien ici.
Ce sont des centaines de petites baraques en béton en périphérie de villes ivoiriennes du nord, près de la frontière avec le Burkina Faso. Des centres de transit mis en place par la Côte d'Ivoire pour accueillir les milliers de réfugiés burkinabés qui ont voulu échapper aux groupes djihadistes ou aux supplétifs civils de l'armée de leur pays depuis 4 ans. Il est vrai qu'Yamoussoukro leur a ouvert sa frontière et subvient aujourd'hui en partie à leurs besoins. D'où le léger agacement d'Alassane Ouattara quand il entend son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, accuser la Côte d'Ivoire de service de base arrière à un groupe terroriste, voire d'accueillir en son sein une sorte de cinquième colonne qui fomenterait quelques complots contre le voisin du Nord. Il faut dire que depuis le coup d'État d'Ibrahim Traoré en septembre 2022 à Ouagadougou, les relations du Burkina Faso avec Alassane Ouattara se sont détériorées. Les deux hommes n'ont pas grand-chose en commun. Le premier est militaire, le second ne l'est pas. Le premier est un contempteur virulent de ce qui subsiste de la présence en Afrique de la France et par métonymie de l'Occident. Le second entretient de très bonnes relations avec Paris et Washington. Entre arrestations de part et d'autre, de ressortissants du voisin, accusations d'opérations désinformation burkinabé en pleine campagne électorale en Côte d'Ivoire, comment lire ces provocations et cette méfiance réciproque? Et comment affectent-elles les sociétés des deux pays qui, elles, se considéraient comme peuples frères? Bonjour Tony Giovanni Peguri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Lille, spécialiste du pastoralisme et des migrations en Côte d'Ivoire. Et vous êtes en duplex depuis les studios d'ICI Nord, que je remercie. Nous sommes en ligne depuis Abidjan avec Arthur Banga. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Oufouette-Boigny d'Abidjan, spécialiste des relations internationales et des questions de sécurité dans la région. Alors, puisque vous êtes sur place, Arthur Banga, qu'est-ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux que la Côte d'Ivoire considère comme de fausses informations fabriquées de toutes pièces par des réseaux burkinabés pour déstabiliser la campagne électorale, là, dans les 4-5 jours qui restent avant l'élection?
Bien, ces derniers jours, on a beaucoup vu des tweets et des posts qui veulent amplifier en quelque sorte les manifestations qui ont eu lieu même hier à Abidjan et en Côte d'Ivoire, soit en y collant de fausses images ou en ressuscitant des images de 2020, puisque la contestation en 2020 a été beaucoup plus forte. Voilà, depuis samedi, c'est ce à quoi on assiste en termes de de désinformation, de déstabilisation. Mais on a aussi même des tweets, des vidéos sur TikTok qui parlent d'annulation de l'élection, de report de l'élection. Voilà, en gros, ce qui se trame autour des élections de la campagne, amplifier les manifestations qui ont lieu en inventant ou en ressassant les images du passé et puis remettre en cause l'organisation ou la tenue même de l'élection qui est prévue pour samedi.
Certains groupes annoncent ni plus ni moins que la mort d'Alassane Ouattara, ne serait-ce que pour semer le doute sur sa santé, certainement avec de fausses captures d'écran attribuées à France 24, une infographie falsifiée également attribuée à Jeune Afrique. C'est l'AFP qui le relatait récemment. On montre combien toutes ces techniques sont toujours relativement plus ou moins sophistiquées. Il suffit de regarder dans le détail, c'est quand même plus grossier souvent qu'il n'y paraît dans un premier temps. Il y avait aussi en août, après que des milliers d'opposants eurent défilé dans les rues d'Abidjan pour protester contre un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, un groupe burkinabé écrivait sur Facebook que des coups de feu avaient été entendus à l'ouest de la ville, qu'on comptait des dizaines de morts, alors que, a priori, aucun coup de feu n'a été tiré ce jour-là. Donc, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parle d'une situation insurrectionnelle dépeinte par ses comptes qu'il attribue, cet organisme, au Burkina Faso. À quel genre de groupe burkinabé pourrait-il être lié, d'après cette Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ivoirienne?
En fait, ce sont des groupes, soit des groupes WhatsApp, soit des influenceurs, soit des faux comptes, qui ont pignon sur rue au Burkina depuis 2-3 ans. Ce sont des groupes qui sont apparus pour soutenir d'abord les régimes de l'AES, pour défendre la présence russe, voilà, de l'agence des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger, pour défendre la présence russe. Et souvenez-vous qu'il y a même eu un clip de Wagner du temps de Prigogine, dans lequel, après le Burkina, après le coup d'État au Burkina, la cible était clairement la Côte d'Ivoire. Et souvenons-nous aussi que Prigogine avait exhibé un de ses prisonniers issus des prisons russes comme futur président de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2-3 ans, il y a déjà cette nébuleuse composée
Arthur
WhatsApp de certains influenceurs. Qui essaie justement d'amplifier, de faire passer de fausses informations, de crimes, psychoses, et plus largement d'essayer de déstabiliser ou de mettre à mal le régime d'Abidjan, perçu justement comme le régime déstabilisateur ou comme le pillon de la France dans l'espace régional.
Et on sait qu'il existe au Burkina Faso des bataillons d'intervention rapide de la communication des cyberactivistes réunis par et dirigés par Ibrahima Maïga, qui est un Burkinabé installé aux États-Unis. Est-ce que toutes ces fausses informations qui parlent d'une situation insurrectionnelle en Côte d'Ivoire notamment sont utilisées par l'opposition ivoirienne? Est-ce que tous les moyens sont bons pour l'opposition ivoirienne pour faire tomber Alassane Ouattara à l'approche de la présidentielle, ou même l'opposition ivoirienne se tient très éloignée de ces fausses informations venant du Burkina Faso?
Non, les comptes officiels ou les officiels de l'opposition ne le feront pas. Ils ne les diffusent pas, même si il y a une visite d'un proche de Laurent Gbagbo il n'y a pas longtemps au Burkina Faso, M. Katina. Mais en revanche, les militants de l'opposition, des cyberactivistes proches de l'opposition, que ce soit ceux de la branche de Guillaume Soro, de Laurent Gbagbo, de plus en plus certains proches de Tidiane Thiam, il y a des pages, hein, des sites ou des noms qui sont connus, qui reprennent pour eux et qui amplifient et qui crédibilisent même dans certains cas toute la madame mise en place par le BIR et par tous les comptes qui se rapprochent du Burkina Faso. Alors, donc il n'y a pas directement cette reprise de l'opposition, mais de façon implicite par des gens qui se réclament, qui sont proches de l'opposition.
Et comment le pouvoir ivoirien d'Alassane Ouattara réagit? Est-ce qu'il se contente de démentir et d'accuser le Burkina Faso, ou est-ce qu'il a renforcé les contrôles, les poursuites? Arthur Banga, est-ce que vous êtes encore avec nous? Parce que le gouvernement ivoirien a rappelé la loi récemment en Côte d'Ivoire. Si vous partagez une fausse information, vous êtes responsable comme celui qui publie. Ça peut entraîner de très grosses peines de prison. Il y a une grande rigueur qui crée aussi des débats en Côte d'Ivoire. Grande rigueur concernant le contrôle de l'information. Est-ce que vous êtes encore avec nous, Arthur Banga?
Non. Oui,
vous... Ouais, très bien. Ok, on vous entend. Ça y est. Oui, voilà. Comment réagit le pouvoir et Alassane Ouattara?
Déjà, structurellement, il y a la création de l'ANSSI, cette agence nationale que vous avez évoquée, qui a eu des résultats probants, puisqu'elle a pu intégrer même ou capturer des gens du BIR. Et puis, il y a ce rappel de la loi, le procureur de la République qui rappelle à chaque fois les risques qu'il y a à partager ou à diffuser ces fausses informations. Et puis enfin, il y a le dernier point qui est aussi d'apporter une réponse. Le régime ivoirien essaie aussi de s'organiser, essaie aussi d'avoir des comptes ou des influenceurs proches de lui, hein, qui vont à leur tour dans les panels TikTok, dans les groupes WhatsApp ou sur les pages Internet, essayer de démentir, essayer de contrer justement les offensives menées par ses proches.
Les autorités ont notamment fait arrêter un influenceur burkinabé, Alino Faso, qui a été retrouvé pendu dans sa cellule avec ses draps il y a quelques semaines. La junte du Burkina Faso a immédiatement dit qu'elle ne croyait pas à un suicide, et avec elle, la Coordination Nationale de la Veille Citoyenne. C'est une structure pro-junte de la société civile burkinabé.
Nous voulons le corps de notre frère Alino Faso. Nous refusons l'impunité totale qui a été faite avec par le régime sanguinaire.
Alassane terroriste, scande ces Burkinabés qui sont proches de la junte burkinabé au pouvoir. Qui était-il, Alino Faso, Arthur Banga? Qu'est-ce qu'il faisait en Côte d'Ivoire?
C'était déjà quelqu'un de très connu parce qu'assez lié d'abord au milieu du business, du showbiz, et puis aussi influent dans la communauté burkinabé, qui très tôt a balancé du côté de Ibrahim Traoré et finalement qui était perçu comme l'un des membres actifs du BIR. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été arrêté et son arrestation déjà avait commencé à amplifier les tensions qui existaient entre...
Oui, ça a contribué à amplifier les tensions.
Se réclamait...
Donc il a été arrêté en janvier, pardon.
Là, sa mort dans des conditions.
La liaison n'est pas très bonne et on a un petit écho. C'est normal, vous êtes à Abidjan et c'est très important pour nous dans cette série de 4 heures sur la Côte d'Ivoire d'avoir des chercheurs qui sont à Abidjan sur place. Mais parfois, la liaison n'est pas très facile. Je vous prie de nous excuser, Arthur Banga, ainsi que les auditeurs. Alors, Alino Faso, en effet, il a été arrêté en janvier pour intelligence avec des agents d'un État étranger. Il était toujours détenu 6 mois plus tard dans une caserne de gendarmerie en Côte d'Ivoire et sans procès. Donc, quand il est mort dans sa cellule, cela a provoqué de grandes manifestations au Burkina Faso, lequel a promis une riposte. Alors peut-être que l'arrestation fin août sur son territoire de 6 fonctionnaires ivoiriens qui travaillaient pour une structure d'aide aux réfugiés était une forme de riposte. On ne sait pas. En tout cas, Alino Faso, il était installé avec sa famille à Abidjan depuis 2021. Il tenait un restaurant. Ce qui me permet de vous poser la question, Tony Giovanni Pegouri, de savoir comment se sont retrouvés aujourd'hui des dizaines de milliers burkinabés en Côte d'Ivoire. Quelle est l'histoire de ces migrations successives de Burkinabé dans le pays du sud-ouest, donc le Burkina Faso?
Oui, alors effectivement, la question mérite d'être posée, parce qu'aujourd'hui, le projecteur est braqué sur ces 80 000 personnes environ de réfugiés qui se trouvent au nord de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, il y a à peu près, sur une population de 32 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a à peu près 4,5 millions d'étrangers burkinabés, auxquels s'ajoutent des personnes qui ont la nationalité ivoirienne, mais qui sont originaires du Burkina Faso. Donc, entre 15 et 20% de la population. C'est une grande part de la population ivoirienne aujourd'hui. Et donc, ça commence... dès l'époque coloniale, avec une politique d'incitation migratoire très forte, qui visait à l'époque à faire venir des travailleurs du Burkina Faso pour compenser la main-d'œuvre qui commençait à manquer en Côte d'Ivoire pour développer la culture du cacao dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment donc sur des fronts pionniers dans l'ouest forestier, vers aujourd'hui Soubré, Guiglo, ces endroits-là, où il y a aujourd'hui une grande part de cette population originaire du Burkina Faso, et on regardait beaucoup moins le nord avant.
Il fallait défricher les forêts à l'époque.
Il fallait défricher les forêts, exactement. La population autochtone n'était pas assez nombreuse de toute façon pour faire ce travail-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec des villages dans ces régions du sud-ouest de la Côte d'Ivoire où vous allez avoir 250 personnes d'ethnie autochtone et 5000 étrangers ethniques entre les migrants internes et les Burkinabés, avec aussi des villages avec des noms burkinabés qui ont été fondés dans ces zones-là. Donc il y a une population burkinabé très importante aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui est très liée aussi à l'histoire politique du pays, puisque c'était des politiques d'incitation migratoire, comme je le disais, qui datent de l'époque coloniale, qui ont été reconduites sous le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 90-2000, hier, vous parliez sur votre antenne des épisodes, des tensions électorales qu'il y avait eu dans ces décennies-là et l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc c'était des gens, ces Burkinabés, qui avaient eu un accès à la terre qui était protégé par le pouvoir, qui était de plus en plus contesté localement, notamment avec la crise économique des années 1980, et qui étaient en quelque sorte la clientèle politique du parti, et qui ensuite ont soutenu Alassane Ouattara, et qui représentaient sa clientèle politique également.
Parce qu'en effet, Tony Giovanni Peguri, en effet, sous Félix Houphouët-Boigny, les Burkinabés de Côte d'Ivoire se sentaient considérés, notamment parce que s'ils exploitaient dans l'Ouest des terres qui appartenaient le plus souvent à des propriétaires ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny aimait à dire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Donc les Burkinabés, en l'occurrence, se sentaient considérés par Félix Houphouët-Boigny. Et vous dites que les tensions que ça a pu engendrer à l'époque ont perduré, peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas pendant les crises électorales des années 2000 et 2010.
Oui, elles ont perduré pendant les crises électorales parce que, justement, cette phrase « la terre appartient à celui qui la met en valeur », qui était portée par Félix Houphouët-Boigny, a été très contestée dans les années 90. Il y a une loi qui a été adoptée en 1998 sous Henri Conan Bédier qui interdit aux non-ivoiriens d'être propriétaires des terres rurales en Côte d'Ivoire. Et cet enjeu-là, finalement, c'était l'accès à la terre entre Laurent Gbagbo qui voulait restaurer les droits autochtones sur les terres qui avaient été cédées par les aînés au Burkinabé, et pas qu'au Burkinabé d'ailleurs, aux étrangers ethniques d'une manière générale, c'est une vraie question d'autochtonie, et Alassane Ouattara qui était perçu comme plus pro, enfin, en tout cas qui voulait maintenir ce système, ce modèle productiviste qui a fait aussi le succès économique de la Côte d'Ivoire, il faut bien le dire. Donc,
ouais. Oui, et d'ailleurs, ce débat-là, qui a été mortel, hein, dans les années 80, à partir de 95, dans les années 2000, ce débat sur l'ivoirité, dans quelle mesure aujourd'hui, et là, je me tourne rapidement vers Arthur Banga, qu'on a retrouvé, dans les discours, Arthur Banga, quand Laurent Gbagbo parle des étrangers qui fraudent pour obtenir la nationalité, qui fraudent pour obtenir des terres, ou plus tard pour construire de grands bâtiments, il le fait régulièrement de dire ça. Est-ce qu'il parle des Burkinabés en particulier?
Non, c'est vrai que le plus gros contingent d'immigration ou d'immigrés est originaire du Burkina, mais la Côte d'Ivoire elle-même est une terre d'immigration qui va au-delà du Burkina. Voilà. Mmh. Même si faut bien reconnaître que les plus concernés, ceux avec qui il y a plus de connexions, ce sont d'abord des Burkinabés, mais c'est une réflexion qui s'élargit à la présence des étrangers. Bon, c'est une réflexion qu'on peut lier aux questions politiques, je suis bien d'accord, mais en même temps aux questions économiques, puisque le chômage grandissant, les gens ont plus de ce réflexe. On peut voir, même pas qu'en Côte d'Ivoire, partout ailleurs dans le monde, ça peut s'entendre, mais oui. C'est une question qui reste au cœur du débat politique, même si elle est moins assumée que par le passé. Mais vous avez qu'à regarder ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ce qui s'est dit dans la rue. C'est un peu moins assumé, mais ça reste toujours présent dans le débat, la question des étrangers, leur place dans la Côte d'Ivoire de demain, même dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui.
Et à l'inverse, Tony Giovanni Peguri, pour ceux qui peuvent voter parmi les Burkinabés, ils ne sont pas très nombreux, me semble-t-il, mais certains ont la nationalité ivoirienne, ceux qui sont là depuis très longtemps, avant le début des années 60, je pense. Pour ceux qui peuvent voter, est-ce que leur faveur autres vont nécessairement vers l'homme du Nord, donc le président actuel Alassane Ouattara, qui dans les années 90-2000, lors de l'émergence de ce concept d'ivoirité, avait lui défendu le fait que la société ivoirienne était multiple et que les Ivoiriens d'origine burkinabé étaient aussi ivoiriens, où ces fractures-là se sont estompées.
Question qui est très intéressante dans le contexte électoral aujourd'hui, je serais incapable de vous répondre, enfin incapable, par rapport à il y a 10 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu estompé, et là, je pense qu'on peut vraiment faire le lien aussi avec ces campagnes de désinformation qu'on voit, puisque pour ces Burkinabés, beaucoup ont constitué la clientèle électorale d'Alassane Ouattara. Il y a aujourd'hui des discours d'influenceurs pro-AES contre Alassane Ouattara, anti-ivoirien, contre l'État de Côte d'Ivoire, qui ne pénètre pas vraiment cette communauté burkinabé. Mais il y a aussi un contre-discours qui est un peu plus insidieux, qui est de dire que le gouvernement ivoirien va soupçonner les burkinabés d'intelligence avec l'actuel gouvernement du Burkina Faso, leur reprocher leur déloyauté. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des burkinabés, qui ne savent pas comment se positionner par rapport à ça, en tout cas qui partagent cette inquiétude.
Et c'est également quelque chose qu'on a pu entendre lors de la guerre civile ivoirienne, où entre 2002 et 2007, quand des ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire disaient être très fortement surveillés et réprimés aussi par l'armée ivoirienne à l'époque, parce que leur communauté était accusée de soutenir les rebelles des forces nouvelles de Guillaume Soro.
Les forces de l'ordre qui s'en prennent aux étrangers et particulièrement aux Burkinabés. Même dans les maisons, dans les bidonvilles, la nuit, on vient, on entre, on pille les pauvres Burkinabés, on les frappe, les femmes sont violées.
Extrait d'un reportage de France 3, Arthur Banga, que reste-t-il de ce débat-là, de ces ressortissants burkinabés qui ont longtemps été accusés de déstabiliser la Côte d'Ivoire?
Je pense que au-delà de, à l'époque, faut pas oublier que quand même la rébellion des forces nouvelles de Guillaume Soro s'était préparée au Burkina, et donc pour la plupart des partisans de Laurent Gbagbo, ils confondaient, ou ils ont confondu, ou ils ont élargi leur diatribe contre Burkina aux ressortissants burkinabés. Mais comme l'a dit Tony tout à l'heure, dans cette nouvelle phase qu'on a de tension, je pense que les burkinabés de Côte d'Ivoire, ou même les Ivoiriens d'origine burkinabé, sont épargnés. Ils sont épargnés pour deux raisons. La première, c'est que manifestement, et ça se voit dans tous les discours, y compris même dans les discours des officiers du Burkina, il y a cette volonté de ne pas mêler les peuples aux tensions politiques. Et je dis très souvent qu'aujourd'hui, on parle de la tension entre Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré, mais politiquement, les tensions entre les régimes politiques en Côte d'Ivoire et au Burkina ont toujours été tendues, où il faut être avec tous les militaires, Laurent Gbagbo, en économie média avec Blaise Compaoré, il y a déjà ces tensions, mais aujourd'hui, il y a vraiment cette idée d'épargner les peuples de la tension. Deuxième chose, effectivement, même pour les Burkinabés, il y a déjà une histoire qui s'est créée avec Alassane Ouattara, parce que pour eux, justement, durant cette période, c'est lui qui symbolisait, ou celui qui pouvait garantir une sorte de sécurité, ça devait être Alassane Ouattara. Il a incarné ça. Donc aujourd'hui, même quand on a des regrets ou quand on est dans cette tension, on peut pas oublier l'histoire ou bien la perception qu'on s'est construite avec Alassane Ouattara dans le temps. Donc ces deux facteurs-là font que aujourd'hui la crise reste essentiellement politique. Elle a du mal à descendre dans les peuples. Et finalement, dernier point sur cette question, le régime d'Ibrahim Traoré veut aussi se rapprocher de Laurent Gbagbo. Donc tout ça complexifie la tâche. Les peuples sont plutôt épargnés pour l'instant.
En effet, les peuples, les sociétés et du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire s'estiment beaucoup plus proches que leurs gouvernants ne le sont entre eux. Et vous aviez commencé, Tony Giovanni Pégouré, à nous parler des différentes strates de migration, des différentes étapes de migratoires de Burkinabé en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont issus des migrations de travail dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'ils ont tous pu accéder à la nationalité ivoirienne ?
Et non, 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 pas du tout, justement.
Il n'y a pas de droit du sol.
Il y a pas, la Côte d'Ivoire n'applique pas le droit du sol. Donc, tous n'ont pas pu accéder à la nationalité ivoirienne. Il y a aujourd'hui, dans ces communautés burkinabées, des gens qui même se disent les burkinabés, qui finalement n'ont pas de papier d'identité. Ce sont des gens, les parents ont quitté un pays qui s'appelait la Haute-Volta, et même pas le Burkina Faso, se sont établis en Côte d'Ivoire, ont eu des enfants. Entre-temps, le pays a changé de nom sous Thomas Sankara et ces gens sont devenus les Burkinabés alors que leurs enfants n'ont jamais mis un pied au Burkina Faso et que leurs parents avaient quitté un pays qui s'appelait la Haute-Volta. Donc non, beaucoup n'ont pas pu accéder à la nationalité. Il y a déjà eu des débats politiques assez houleux quand il s'est agi de naturaliser les étrangers qui étaient arrivés en Côte d'Ivoire avant 1962 au lieu de 1960. Auparavant, ça a déjà été un gros débat. Donc non, effectivement, beaucoup n'ont pas la nationalité ivoirienne et certains n'ont pas de nationalité du coup, même s'ils se revendiquent burkinabé.
Donc des apatrides. Arthur Bonga, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je pense qu'on a quand même un peu évolué, on a quand même évolué sur cette base pour deux raisons. Parce que finalement, la nationalité ivoirienne elle peut être acquise aussi par mariage. Et n'oublions pas que finalement, sur deux, sur trois générations, les sociétés se sont un peu mixtées. Et donc, il y a une part qui va l'obtenir par mariage. Et puis, n'oublions pas aussi que durant la crise, il y a eu à la fois une naturalisation en masse quand même qui venait de l'accord de Marc aussi. Et puis, des procédures d'audience orale.
Alors, j'ai toujours espoir que vous ressurgissiez quelques secondes après avoir disparu, mais ça n'est pas le cas, malheureusement. Arthur Bonga, oui, pardon, vous disparaissez assez régulièrement et c'est vraiment dommage. Je rappelle que vous êtes à Abidjan, peut-être un petit mot là-dessus. Tony Giovanni Peguri, on parle là des mélanges qui se font en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi des mélanges qui se font beaucoup plus près de la frontière encore aujourd'hui entre des ressortissants burkinabés qui vivent au Burkina Faso et des ressortissants ivoiriens, mais qui, notamment par leur travail, se côtoient. Je pense aux agriculteurs ivoiriens qui côtoient les éleveurs burkinabés, les éleveurs de bétail, qui viennent faire paître leurs animaux au Burkina, en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette coexistence prémunit contre le type de violence dont vous nous parliez tout à l'heure, ces violences raciales qui ont ressurgi en 2010, ou au contraire, est-ce que ça en multiplie le risque ?
Oui, effectivement, il y a aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire des troupeaux transhumants qui viennent du Burkina Faso. Il n'y a pas que des troupeaux transhumants d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes originaires du Burkina Faso qui sont installées aussi depuis plusieurs générations dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, il y en avait beaucoup plus dans l'ouest. Et cette relation, elle n'est pas conflictuelle par essence. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de conflits de paysans autochtones qui sont en conflit avec des communautés qu'on appelle en Côte d'Ivoire allochtones, c'est-à-dire des paysans de nationalité ivoirienne mais qui ne sont pas originaires de la région. Ils sont beaucoup plus en conflit aussi autour de questions d'autochtonie, ce qu'on a beaucoup au nord de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce qui est important, je pense, c'est est-ce que c'est plutôt un facteur de risque ou pas, peut-être. Parce que dans ces épisodes de violence qu'on a eu dans les années 2000, il y avait une instrumentalisation politique de la question des terres, de la question de l'accès aux terres. Ça partait pas d'en bas, ces violences. Donc il y a une instrumentalisation politique qui, là, ne semble pas être à l'ordre du jour dans le contexte électoral actuel.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire craint par ailleurs que les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso ne s'infiltrent sur le territoire ivoirien. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda n'y a pas perpétré d'attentat depuis 2020, mais étant donné la situation sécuritaire du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire reste très vigilante. Tony Giovanni Peguri, vous étiez venu il y a un peu plus d'un an dans Culture Monde pour nous raconter dans un focus les restrictions désormais imposées par Yamoussoukro aux éleveurs burkinabés de bétail, restrictions qui concernent aussi les réfugiés, à savoir vous n'emmenez pas de bêtes, de vaches ou d'animaux sur notre territoire. Rappelez-nous les raisons de ces mesures et est-ce qu'elles sont toujours en vigueur aujourd'hui ?
Oui, alors il y a eu les raisons de ces mesures, je pense qu'il y a eu une inquiétude du gouvernement de voir arriver effectivement des cheptels très importants avec ces réfugiés et de craindre qu'il y ait une explosion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, parce qu'il y a quand même un accès aux fonciers qui est de plus en plus difficile en ressources pastorales, et bon aussi des problèmes sanitaires. Il y a eu tout un tas de raisons qui ont été invoquées. Donc cette règle-là avait été adoptée. Dans les faits, ce que j'avais constaté il y a à peu près un an, quand j'étais passé sur votre antenne, je rentrais tout juste du nord de la Côte d'Ivoire, ce que j'avais constaté, c'est qu'elle inquiétait beaucoup des éleveurs transhumants qui, eux, depuis bien des années, historiquement, amenaient leurs troupeaux au nord de la Côte d'Ivoire et qui étaient inquiétés par les autorités locales. Parce que il faut quand même avoir l'œil pour différencier un transhumant d'un réfugié. Donc, c'était devenu une source d'inquiétude et certaines personnes racontaient avoir été raquettées par les forces de sécurité. Tandis que du côté des réfugiés, beaucoup expliquaient qu'ils avaient quand même pu faire rentrer leur bétail, qu'ils avaient quand même pu s'arranger en payant, qu'ils avaient pu accéder à des forêts classées. Donc voilà, cette décision finalement est là, elle est appliquée localement, ça dépend aussi beaucoup des autorités, il y a quand même une volonté de limiter les conflits.
Parce que la Côte d'Ivoire argue de ce que certains animaux sont parfois volés d'un côté de la frontière pour être vendus de l'autre côté et financer le terrorisme, mais les militaires chargés des contrôles, les militaires ivoiriens, ils doivent bien finir par les connaître, les éleveurs qui accompagnent leur bétail sans aucune autre intention. Ça fait pour certains des années qu'ils font ça. Vous dites que néanmoins, il y a une confusion qui s'est créée.
Oui, puis les gens sont pas toujours nécessairement en règle, c'est-à-dire que pour passer la frontière avec présenter les documents en bonne et due forme, bon déjà, il faut avoir des papiers d'identité, il y a des règles à respecter. On ne peut pas rentrer avec du bétail en Côte d'Ivoire, du bétail qui marche, il faut qu'il soit transporté par véhicule. Bon, beaucoup d'éleveurs ne respectent pas forcément cette réglementation-là non plus, et il y a beaucoup de points de passage, surtout en saison sèche, de la frontière du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent en situation extra-légale. Mmh.
Et malgré les tensions entre l'État ivoirien et l'État burkinabé, est-ce que les échanges de part et d'autre de la frontière fonctionnent bien à l'échelle des préfectures, des forces locales? Est-ce qu'il y a une bonne entente pour mener au moins cette lutte commune et cohérente contre le... Enfin, qui devrait être commune et cohérente contre le djihadisme? Là, c'est quand même un intérêt commun que partagent les deux pays.
Il y a un an, il y avait quand même j'avais l'impression qu'il y avait une bonne entente, parce que même s'il y a des tensions entre les gouvernements, bon, de part et d'autre de la frontière, les préfets se connaissent, parlent la même langue, se côtoient, les forces de sécurité, ça se passait quand même, on va dire, en bonne intelligence. J'ai eu quelques échos, mais je ne suis pas retourné sur le terrain depuis. J'ai eu quelques échos. Apparemment, cette relation-là se dégrade, c'est devenu un peu plus compliqué. Quant à la question de savoir si, oui ou non, la Côte d'Ivoire héberge du djihadisme, bon, là aussi, il y a énormément de complotisme. Il y a des études qui ont été menées, qui montrent qu'il peut y avoir des activités illicites en Côte d'Ivoire qui peuvent servir à financer du djihadisme. Alors, elles sont très difficiles à mesurer, parce que le djihadisme a bon dos aussi, et ça ne veut pas dire non plus que la Côte d'Ivoire cautionne ça. Je pense que la lutte, Arthur Bangia vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais je pense que la lutte qui est menée par la Côte d'Ivoire est sérieuse et sincère.
Et un petit mot d'ailleurs, Arthur Banga, à ce sujet, avant de rapidement conclure sur l'échelle régionale et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer au niveau très très local qu'on est en train de raconter, mieux rappeler le contexte régional. Mais sur ce que vient de dire Tony Giovanni Peguri, Arthur Banga, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ouais, je voulais justement, le contexte sécuritaire du moment complexifie le passage. Parce que justement, autorité burkinabé comme autorité ivoirienne craignent que ces circuits pastoraux soient des circuits en fait de commerce pour enrichir ou pour financer le terrorisme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur le bétail, parce que on a remarqué que le vol de bétail devient une source de financement, le vol de motos. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus regardants sur ces questions. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est que justement, Les tensions politiques agissent sur la construction de réponses collectives militaires. Avant l'arrivée au pouvoir de d'Ibrahim Traoré, les forces ivoiriennes et burkinabées travaillaient et montaient en ensemble des opérations, l'opération Komoé, l'opération Tourbillon, pour agir en commun contre les groupes terroristes. Mais depuis l'arrivée du régime Ibrahim Traoré, la méfiance, la tension, la suspicion bloque toute initiative ivoiro-burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, les forces sur le terrain se regardent en chien de faïence, en méfiance. Il n'y a pas longtemps, deux gendarmes ivoiriens ont été arrêtés pendant près d'un an. La Côte d'Ivoire avait répliqué en capturant deux VDP du Burkina. Il y a eu des échanges grâce à la médiation togolaise. Donc, finalement, l'impact de la tension, de la crise politique, il est plus grand sur la réponse qu'on peut apporter à la menace terroriste. Contrairement au peuple, je pense qu'ils continuent d'avoir leurs échanges classiques de part et d'autre de la frontière.
Vous mentionnez les VDP, ce sont les volontaires pour la défense de la patrie des supplétifs civil de l'armée burkinabé que la Côte d'Ivoire accuse de mener régulièrement des incursions sur le territoire ivoirien. Ces tensions actuelles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, elles sont à replacer dans ce contexte régional plus large. Le Burkina Faso fait aujourd'hui partie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali et le Niger. Ouagadougou a quitté la CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Est, à laquelle Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, lui, reste très lié. Il en est même l'un des moteurs. Est-ce que vous pensez, Arthur Banga, comme nos invité d'hier, qu'Alassane Ouattara a peur que cette série de coups d'État ces dernières années en Afrique de l'Ouest ne fasse tache d'huile, que la culture kaki, pour reprendre les mots du chercheur Yvan Guichaoua, trouve un écho en Côte d'Ivoire.
Non, au-delà de, je pense que c'est réducteur de le dire, même au temps où les coups d'État étaient la règle, la Côte d'Ivoire a été épargnée pendant près de 40 ans. Donc je pense que la capacité de gérer un coup d'État, elle est surtout liée à ta capacité intérieure, soit à contrôler tes armées, soit à apporter des réponses sociales. Même si on peut craindre d'effet contagion, naturellement on peut vraiment craindre d'effet contagion, la position d'Alassane Ouattara, qui était la position de la Côte d'Ivoire, c'est de revenir au texte de la CEDEAO. Au texte de la CEDEAO qui sont très clairs sur la question, pas de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Et je pense que Alassane Ouattara, avec certains comme Patrick Talon, Macky Sall, ont tenu cette position ferme en s'appuyant sur les textes de la CEDEAO et en allant jusqu'à réclamer, parce que finalement, le dernier coup d'État qui a été fait au Niger a agacé vraiment au sein de la CEDEAO. Donc, certains comme Ouattara ou Patrice Talon, Macky Sall ont été vraiment agacés, ont voulu pousser jusqu'à l'intervention militaire pour rétablir un régime constitutionnellement et démocratiquement élu comme celui de Bazoum. Mmh. Naturellement, pour les régimes militaires, le fait que Alassane Ouattara se mette en fer de lance ou en tête de pont de cette tendance rigoriste face au texte, fait de lui la principale cible et fait donc de la Côte d'Ivoire la principale cible de ces régimes-là. Mais je pense que Ouattara s'est inscrit dans la logique de la CEDEAO.
Il y a un petit décalage, Arthur Banga, entre le discours que vous tenez sur la lutte contre le terrorisme et les oiseaux qu'on entend piailler à côté de vous à Abidjan, peut-être des crabiers chevelus ou des hérons garde-bœufs ou encore quelques pintades à poitrine blanche. Mais je pense que c'est pas exactement ce cri-là ou ce chant-là pour les oiseaux de Côte d'Ivoire. Est-ce que peut-être pour conclure, on rappelait hier que Awa Don Mello, un des cinq candidats à la présidentielle, est un ancien fidèle de Laurent Gbagbo. Il a présenté sa propre candidature. Il est partisan, lui, d'un dialogue avec les États de l'Alliance du Sahel. Est-ce que lui, par exemple, va jusqu'à proposer une alliance avec le Burkina Faso, ou c'est une position qui est impossible à tenir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Arthur Banga?
Non, la question du dialogue avec le Burkina Faso, même Alassane Ouattara le dit.
Là, je parle d'une alliance, là, vraiment.
Pas que quand... Ouais. Une alliance, vraiment, non, c'est pas encore... ça sera mal perçu, c'est pas encore à l'ordre du jour. Même s'il faut comprendre, Don Mello, c'est quelqu'un qui vient quand même... qui est séduit par le discours communiste, le discours proche des BRICS. N'oublions pas qu'il est vice-président d'une alliance qui fait la promotion des BRICS en Afrique. Et donc, mais pousser jusqu'à une alliance avec le Burkina Faso aujourd'hui, c'est assez contre-productif. Et à part lui, beaucoup de personnes préfèrent rester sur l'idée l'idée du dialogue, l'idée de reconstruire une relation saine, une CEDEAO plus forte qui va permettre de résoudre des questions justement comme la question du terrorisme.
Et certains pays d'Afrique de l'Ouest se posent en médiateur aussi entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso, notamment au sein de l'organisation économique régionale, l'organisation économique et monétaire régionale. On en parlera dans le Focus juste après ce chanteur ivoirien, Fadal Day, Tu parles trop. Le reggaeman ivoirien Fadal Day qui, dans cette chanson toute récente, Tu parles trop, s'adresse directement à Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Ça fait beaucoup parler d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Tu marches comme Sankara, dit-il, tu parles comme Sankara, tu portes ton chapeau comme Sankara, mais tu n'es pas Sankara. Peut-être l'insulte suprême d'un ivoirien envers un burkinabé. Les tensions entre les deux pays, c'est le thème du deuxième épisode de cette série que nous consacrons tout entière à la Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle samedi. Tensions qui compromettent par ailleurs les plans d'unification économique et monétaire en Afrique de l'Ouest.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ben nous, notre vision était très claire. Nous sommes engagés vers une monnaie ouest-africaine qui s'appelle l'éco. Nous allons abandonner la terminologie de France CFA et nous allons nous orienter vers l'appellation de l'éco quand nous allons mettre l'éco en place. Donc c'est notre décision.
En 2019, Alassane Ouattara annonçait unilatéralement que les pays d'Afrique de l'Ouest utilisant le franc CFA l'abandonneraient bientôt au profit d'une nouvelle monnaie unique, l'éco. Depuis, trois pays de cette zone ont vu des militaires prendre le pouvoir, on en a parlé, claquer la porte de la CEDEAO, l'organisation politique régionale historique, et lancer leur propre projet de monnaie unique. Ils restent pourtant membres de l'organisation économique régionale et continuent pour le moment à utiliser le franc CFA. Bonjour Paul Deutschmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du média Africa Intelligence. Et pour revenir d'abord sur la toute dernière crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'était en juillet. Le Burkina était censé prendre la présidence du Conseil des ministres des États membres de l'Organisation économique régionale. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle à ce moment-là refusé de lui céder son poste ?
Alors, la Côte d'Ivoire a refusé parce qu'elle dénonce une forme de duplicité de la part du Burkina Faso, qui a quitté la CEDEAO, comme ça a été raconté, mais qui est resté membre de l'UMOA, parce que le coût économique de quitter l'UMOA n'est pas aussi fort que, enfin, est beaucoup plus fort que le coût politique de quitter la CEDEAO. Et donc, finalement, les pays de l'AES et le Burkina Faso, aujourd'hui, peuvent se financer, commercer sur le marché UMOA, tout en ne payant pas une partie de leur cotisation obligatoire. Alors, le Burkina Faso a régulé une partie de sa cotisation, notamment à perspective de prendre la présidence du Conseil des ministres. mais ce n'est pas le cas du Mali, qui ne bancarise pas non plus systématiquement leurs opérations financières avec les opérateurs étrangers, et qui surtout participe activement à la crise de l'UMOA, notamment la crise des devises, par une faible participation des IDE. Depuis les coups d'État, il y a évidemment moins d'investisseurs étrangers, donc il y a moins de rentrées de devises. Et donc, c'est des paramètres parmi d'autres. Hein, l'UMOA connaît des difficultés, pas que avec l'AES, hein, des difficultés structurelles depuis un certain nombre d'années, mais qui vont un peu plus fragiliser l'Alliance. Et c'est vrai qu'Alassane Ouattara se sent très pénalisé par le rôle de l'AES, qui les dénonce comme finalement improductif, et que finalement l'idée de donner une telle fonction au Burkina Faso serait contre-productive et serait un cadeau qu'il ne comprend pas.
Voilà, donc une médiation a même été menée par le Sénégal et le Bénin, qui trouvaient que la Côte d'Ivoire était un petit peu agressive avec le Burkina Faso sur ce dossier-là. Un compromis a été trouvé, là, il y a quelques jours, le 6 octobre. C'est donc désormais le ministre de l'économie du Burkina Faso qui préside le conseil des ministres de l'UEMOA, donc cette union économique et monétaire ouest-africaine, des pays qui partagent le franc CFA comme monnaie pour l'instant. Comment expliquer d'ailleurs que le Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, ait quitté la CEDEAO, l'Organisation politique d'Afrique de l'Ouest, mais pas son instance économique?
Oui, parce que c'était plus facile de quitter la CEDEAO. D'un point de vue gain, ça a été immédiat, il fallait imprimer des nouveaux passeports. Mais le coût n'a pas été très fort. Si on regarde bien, la liberté de voyager pour les ressortissants de l'AES dans la zone CEDEAO n'a pas été impactée. Et en dehors des peut-être sujets administratifs qui étaient les fonctionnaires déployés au sein de la CEDEAO, il n'y a pas eu d'embûches majeures. L'UMOA, c'est bien plus délicat parce que ce sont des économies fragiles qui ont besoin de ce marché commun, qui ont accès à ce marché commun de l'UMOA pour se financer sur les marchés, qui sont aussi sous programme FMI, hein, dans le cadre des trois juntes, surtout pour le Burkina et le Niger. Et donc, finalement, c'est un cadre qui rassure les bailleurs et qui ont beaucoup râlé le FMI dans le cadre des discussions qu'ils ont eues sur des plans d'appui. Et donc, le coût économique d'une telle manœuvre est très important. Et donc, c'est très compliqué de quitter l'UMOA comme ça. Et donc, finalement, je pense que dans leur calcul assez pragmatique, quitter la CEDEAO, c'était peut-être la figure la plus emblématique et la plus contesté au niveau des opinions publiques, et ça a eu un vrai gain politique. Sur le plan économique, ils ont été assez pragmatiques et se dire que pour l'instant, ils attendent plus de temps avant de pouvoir réellement quitter l'UMOA, quitter ce marché commun, et puis comme ils ont annoncé, de pouvoir à un moment donné créer leur propre monnaie, qui se heurte évidemment, mais comme pour la monnaie éco, à des problèmes majeurs de taux de parité, enfin des certain nombre de projets qui sont relatifs à la question de battre sa propre monnaie.
D'ailleurs, comment expliquer que la sortie du franc CFA, quelle que soit la monnaie créée pour prendre le relais, mais que cette sortie du franc CFA prenne autant de temps, alors qu'il y a, me semble-t-il, consensus aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour abandonner ce vestige du passé colonial?
Oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le problème du CFA est autant un problème aujourd'hui pour des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo que pour l'AES. Je ne pense pas qu'il y ait un monopole de la question du CFA par l'AES. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu des projets d'annonces qui ont été mis en place bien avant, puisque Alassane Ouattara, avec Emmanuel Macron, de façon très unilatérale d'ailleurs, et c'est une des réponses à votre question. C'est-à-dire que l'écho qui a été lancé en 2019 n'a jamais été très clair sur qu'est-ce qu'elle incarnait. C'est-à-dire, est-ce que c'était une monnaie que commune au pays de l'UMOA, donc en fait au pays de la zone CFA, pour faire simple, donc c'est 8 pays, ou est-ce que c'était une monnaie ouest-africaine élargie à tous les pays de la CEDEAO, comme l'idéal panafricain de la CEDEAO, hein. Dès 1975, il y avait l'idée de pouvoir avoir une monnaie commune à tous ces pays-là. Et donc, très vite, elle s'est heurtée, ce projet, à la méfiance du Nigeria, qui, à l'époque, Buhari, le président, avait très tôt fait épars de ses critiques sur cette décision qui coupait l'herbe sous le pied au projet d'une monnaie un peu plus élargie. Et puis, il y a eu, en effet, ces coups d'État successifs, hein, au Mali en premier temps, puis au Burkina, puis au Niger, qui ont un peu, on va dire, geler une partie des travaux. Alors, officiellement, quand on échange avec des ministres ouest-africains de la CEDEAO, ils vous disent qu'ils avancent, qu'il y a des projets. Il y a eu une annonce pour affirmer que cette écho pourrait être officiellement en circulation en 2027. En réalité, il y a beaucoup de pessimisme, notamment d'intérêts qui vont diverger en fonction d'une monnaie qui serait une monnaie commune à la zone CFA, ou est-ce qu'une monnaie qui serait élargie à l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a encore des dissensions sur l'arrêté de cette monnaie. Typiquement, dans le projet écho qui avait été proposé en 2019, il y avait l'idée de maintenir la parité fixe entre l'écho et l'euro, ce qui est évidemment un point qui brusque, par exemple, le Nigeria, qui a une volonté de pouvoir jouer sur sa monnaie en fonction du cours du pétrole. C'est un grand pays exportateur. Et donc, toutes ces différenciations impliquent évidemment des discussions. Alors, à 8, si on parle de l'AMOA, mais à 15, si on parle des 15 pays de la CEDEAO.
15 pays de la CEDEAO, dont sont exclus aujourd'hui, ou ils se sont exclus eux-mêmes, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont été très prompts à émettre, par exemple, de nouveaux passeports comme un symbole de souveraineté, mais qui ont beaucoup plus de mal aujourd'hui de créer une monnaie commune. Et d'ailleurs, est-ce qu'une monnaie commune entre ces trois pays dont les économies ne sont, me semble-t-il, pas très complémentaires par ailleurs, mais est envisageable quel débat cela crée aujourd'hui, donc qui ne serait pas l'écho, puisque eux refusent ce projet porté par la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est évident qu'il y a des vraies embûches pour ces trois pays à battre leur monnaie. Il y a évidemment un message politique et ça s'est très tôt matérialisé. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le premier à avoir parlé de cette monnaie, je crois que c'est Abdourahmane Tiani en 2024, qui a comme conseiller spécial Kémi Séba, un activiste extrêmement virulent depuis une dizaine d'années sur la question du CFA, et qui a très vite mesuré que c'était un sujet qui pouvait vraiment coaliser au moins les opinions publiques jeunes et urbaines. Et donc, c'est vrai que Tiani l'a beaucoup utilisé dans les premiers mois de son investiture. Aujourd'hui, ils ont en face de créer une banque centrale commune à ces trois pays. Le vrai sujet, c'est qu'une monnaie, pour qu'elle soit aussi crédible sur les marchés, il faut qu'il y ait un certain nombre de pays avec évidemment un certain nombre de critères qui sont à définir, et que là-dessus, il y a très peu de choses qui ont été faites, en tout cas d'informations publiques à ma connaissance, sur la réalité de ce projet qui suscite évidemment beaucoup de pessimisme, mais qui pourra nous faire démentir. Mais à ce jour, en tout cas, le projet semble relativement pas être possible dans un présent très proche.
Une dernière question, Paul Deutschmann. Vous le disiez, Alassane Ouattara, qui annonçait en 2019 son projet d'éco, s'était rapproché à un moment du Nigeria, et notamment voyant les années suivantes, à mesure des coups d'État dans les pays voisins, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne le suivraient de toute façon pas. Il s'était tourné vers des pays d'Afrique de l'Ouest anglophones, dont le Nigeria, qui a aujourd'hui quelques réserves. Sa tentative de rapprochement avec le Ghana aussi, il répète à qui veut l'entendre que le Ghana est son allié. Sauf qu'il y a eu un changement cette année, puisqu'au président Nana Akufo-Addo, très libéral et pro-occidental, a succédé un président qui l'est moins, John Dramani Mahama, qui refuse de tourner le dos aux États de l'Alliance des États du Sahel, de l'AES. Est-ce que lui, ce nouveau président ghanéen, pourrait être un médiateur entre la Côte d'Ivoire et les États de l'Alliance du Sahel, Burkina Faso compris ?
Oui, il fait en tout cas partie des interlocuteurs que peuvent évoquer les officiels ivoiriens, surtout avec le Togo qui joue vraiment ce rôle aujourd'hui dans toute la région de médiateur avec les juntes. C'est le pays qui a peut-être tissé le plus de liens à la fois avec le Niger, le Burkina et le Mali. Donc c'est vrai que sur les médiations, vous en parliez notamment des arrestations de militaires ou gendarmes ivoiriens, ça a été le Togo qui a joué ce rôle-là. Le Ghana, oui, c'est vrai que Alassane Ouattara... ils se sont très pénalisés par l'AES aujourd'hui, sont très pénalisés par l'UMOA. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est la moitié du PIB de l'UMOA, donc il y a cette fierté d'Alassane Ouattara, économiste, finalement de ce qu'il qualifie de miracle ivoirien. Et donc, si vous voulez, il se dit qu'aujourd'hui, il est vraiment pénalisé par pas que l'AES, d'ailleurs, par d'autres pays de l'UMOA, et qu'il a beaucoup plus d'intérêt à se tourner, notamment vers le Ghana. Et c'est vrai qu'avec Nana Akufo-Addo, ils avaient tissé cette relation. Ils étaient d'ailleurs, tu veux, sur la même posture, vous l'avez dit, d'intransigeance vis-à-vis des juntes. Ils ont une économie pareille, qui se ressemble en tout cas, notamment en matière d'exportation du cacao. Et donc, c'est vrai qu'Alassane Ouattara a voulu sortir de son périmètre pour travailler sur cette monnaie. Il y avait le Ghana, il avait aussi approché la Sierra Leone, mais aussi une autre junte qui est moins en rupture, qui est la Guinée-Conakry. Donc, il tente ces opérations-là avec plus ou moins de succès pour l'instant.
Merci beaucoup, Paul Deutschmann, rédacteur en chef du média Africa Intelligence, d'avoir été avec nous pour conclure cette émission. Je salue et remercie nos invités, Arthur Banga, maître de conférence en histoire à l'université Oufouette-Boigny d'Abidjan, qui était en ligne avec nous depuis la capitale économique ivoirienne, et Tony Giovanni Peguri, chercheur en sciences politiques à l'université de Lille, en duplex depuis les studios d'ici Nord, avec Vincent Cunha à la technique. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Avec Camille Marigot cette semaine, la tension est encore montée d'un cran, Camille, entre Donald Trump et le président colombien.
Ce week-end, le président américain a traité Gustavo Petro de baron de la drogue. Ce dernier, lui, assure que les États-Unis ont violé la souveraineté de l'espace maritime de son pays et tué un pêcheur colombien lors d'une opération en mer des Caraïbes contre les narcotrafiquants. Nouvel épisode. Hier, Bogota rappelle son ambassadeur à Washington, Donald Trump, ayant évoqué une possible intervention si la Colombie n'arrête pas immédiatement de produire de la drogue. Il envisage aussi de nouveaux droits de douane, des surtaxes qui reviennent donc sur le devant de la scène colombienne, commente El Espectador. Conséquence, le patronat et les syndicats appellent au dialogue, à calmer les choses dans l'intérêt de la Colombie, indique El Tiempo, autre quotidien colombien qui ne voit pas de solution à court terme. Des échanges tendus, résumés par cette question posée au ministre de l'Intérieur colombien, Benedetti, sur la chaîne Blue Radio hier.
Pourquoi le président Petro si peut dire à Donald Trump qu'il est un ignorant, qu'il est un génocide, qu'il est un assassino et toutes ces choses, et le président Trump.
Pourquoi le président Petro peut dire à Trump qu'il est un ignorant, un génocidaire, un assassin, et pourquoi Trump ne peut pas dire à Petro qu'il est un narcotrafiquant? Les insultes ont commencé des deux côtés, demande cette journaliste. Il faut dire que sous Petro, premier président de gauche de l'histoire moderne de Colombie, rappelle le quotidien suisse Le Temps, sous Petro, les relations entre Washington et Bogota se sont dégradées au début du second mandat de Donald Trump, explique Le Guardian. Dernier exemple en date, ces critiques depuis des semaines au sujet donc de frappes américaines contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue dans les Caraïbes, ajoute le quotidien britannique. Des opérations jugées très discutables par beaucoup d'experts de droit international quand l'administration Trump assure vouloir protéger la santé des Américains du déferlement de cocaïne aux États-Unis, relate Le Temps. Le Washington Post consacre justement un long article aux routes de la drogue en Amérique du Sud, de Caracas, la capitale du Venezuela, à Bogota, en passant par la capitale américaine. L'article cite plusieurs responsables sous couvert d'anonymat, selon qui les routes attaquées au large du Venezuela visent plutôt à envoyer la drogue, rarement du fentanyl, vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Les frappes militaires ne devraient donc pas réduire le nombre de décès par overdose aux États-Unis, mais bien alimenter davantage les tensions politiques en Amérique latine, estiment ces responsables américains.
La presse internationale parle aussi ce matin, Camille Marigaud, de cette femme qui devrait, en tout cas qui est très pressentie pour diriger le Japon.
Après un accord gouvernemental conclu avec le centre droit, l'ultra-conservatrice et nationaliste Sanae Takaichi s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la première ministre japonaise, nous dit le Japan Times. Sanae Takaichi, qui idolâtre Margaret Thatcher, ne s'est en revanche jamais revendiquée féministe et ne fait pas de la fin du patriarcat son premier combat. D'ailleurs, parmi les militants, universitaires ou membres de la classe politique, peu s'attendent au grand soir, rapport le New York Times, que ce soit pour briser le plafond de verre politique ou économique. Sur la question de l'égalité, Sanae Takaichi reste très attachée à cette loi plus que centenaire qui interdit aux membres d'un couple marié de garder leur nom de famille. La femme doit donc prendre celui du mari, rappelle The Asahi Shimbun. Alors oui, elle a bien exprimé son soutien à l'accès aux soins de santé pour les femmes. Elle a même parlé de sa ménopause, rappelle le New York Times. Et que dira-t-elle alors de cette autre actualité au Japon? Hier, ce hasard ou pas du calendrier en matière d'égalité et de santé, le pays a approuvé la vente sans ordonnance d'une pilule contraceptive d'urgence, la pilule du lendemain, une première, là encore, dans le pays où jusqu'ici un examen médical et une ordonnance étaient nécessaires, un obstacle majeur pour celles qui voulaient prendre cette pilule, estime The Asahi Shimbun.
Et pour conclure votre revue de presse, une vidéo d'un mariage qui embarrasse un proche du guide suprême iranien.
Un scandale rare au sein de la haute hiérarchie de la République islamique, nous dit le New York Times. Il concerne Ali Shamkhani, militaire haut conseiller du guide suprême, connu pour avoir supervisé les négociations nucléaires avec les États-Unis et surtout pour avoir supervisé l'application des règles sur le port du voile et la répression des manifestants. Ali Shamkhani, accusé désormais de mener une double vie, prêcher la piété en public tout en menant un mode de vie totalement différent avec sa famille. Et depuis samedi, des images du mariage de sa fille qui date d'avril circulent. On y voit l'amiral qui accompagne la mariée à l'hôtel. Ce qui fait beaucoup parler, c'est le décolleté de la jeune femme et de sa mère, tandis que les autres femmes présentes dans cette vidéo ne portent pas le hijab. Ensevelie sous le scandale, titre le journal réformateur iranien Sharg, scandale et double malaise. D'abord, un étalage de richesses plutôt exubérantes au vu des conditions économiques dans lesquelles vivent les Iraniens. iraniens. Un étalage de richesses sévèrement jugé par cet autre quotidien, Etelat, qui parle de provocation. Vous ne devez pas connaître la vie des gens. Et pour le journaliste Amir Hossein Mossala, cette vidéo montre que même les responsables du régime ne croient pas aux lois qu'ils soutiennent publiquement. De l'hypocrisie dans sa forme la plus pure, conclut-il.
Merci Camille Marigaud.